Radio Okapi.
Le journal Pascal Masserica.
Au sommaire de cette édition en information en Ituri, environ 120 000 déplacés sont protégés en ce moment par des casques bleus de la MONUSCO dans les différents sites du territoire de Djougou, cas des sites de Boulé, Djaïba et Djina où des abris sont construits pour eux comme s'ils étaient dans leur village. Prorogation à Kinshasa de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu pour la 34e fois consécutive. Les députés nationaux élus des deux provinces insistent sur la nécessité qu'il y a d'organiser un débat sérieux avant d'en arriver là. Notre invité, ce bienfait Baraka, ce membre de la société civile de Banande Kainama, parle de la situation sécuritaire et socio-économique de Beni et des efforts qui sont consentis par les FARDC pour restaurer la paix dans cette région du Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonsoir. En Ituri, les casques bleus de la MONUSCO assurent la protection d'environ 120 000 déplacés dans les différents sites du territoire de Djougou. À Boulé, par exemple, plusieurs hectares des champs entourent la base de la MONUSCO où des déplacés mènent des activités champêtres. À Djaïba et à Djina, des abris sont construits pour eux comme s'ils étaient dans leur village. Reportage à Bounia d'Isaac Remoyopé.
Ces personnes déplacées composées essentiellement des femmes et des enfants sont concentrées autour des bases de la MONUSCO. À Boulé, elles sont estimées à plus de 80 000 personnes disséminées dans trois sites. D'autres sont installées à Djaïba et à Djina. Pour se déplacer, leur survie dépend exclusivement des casques bleus qui les protègent contre les attaques des miliciens de la CODECO qui ciblent souvent leurs sites. Dans tous ces endroits, cette phrase revient sur toutes les lèvres, je cite, « Sans la MONUSCO, on ne pourrait vivre ici. » Pour eux, il n'est pas question que les casques bleus quittent leur milieu jusqu'au rétablissement total de la paix. Une femme à Boulé témoigne.
C'est à cause de MONUSCO que nous restons ici à terre. Grâce à ces gens-là que moi aussi je m'habite à terre. Si ils partent, moi aussi je pars d'ici. À cause de la sécurité, la MONUSCO, si on dit déjà quelque chose qui ça ne va pas, il intervient directement.
Selon la société civile de la chefferie de Badjéré, beaucoup de déplacés seraient morts sans la présence de la MONUSCO qui intervient chaque fois pour sauver des vies humaines. Malaudre a désiré son coordonnateur.
Il y en a eu dans les sites de Plaine Savoie ici. La MONUSCO est intervenir lorsque les assaillants sont venus pour mettre des forfaits dans ces sites-là. Ni c'était l'intervention de la MONUSCO, les gens allaient tous mourir dans cette région.
Signalons que la présence des casques bleus de la MONUSCO rassure également la population dans tous ces villages contre les menaces des groupes armés. Déboulé, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Sensibiliser les présidents fédéraux des partis politiques en vue des prochaines élections en RDC et sur le rôle de la MONUSCO, c'est l'objet d'une rencontre organisée à Bukavu hier jeudi dit par la section des affaires politiques de la mission onusienne. Le compte-rendu à Bukavu de Rachel Kiesembangu.
En attendant les mandats du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le rôle que doit jouer la MONUSCO aux élections de 2023 en RDC, une sensibilisation s'avère nécessaire pour préparer les partis politiques aux prochaines élections. Gagné Aré, coordonnateur des affaires politiques MONUSCO Sud Kivu.
Pour changer sur les défis, il est pas mal de nous dire les perspectives de l'organisation de cette élection. On a aussi touché sur l'appui de la MONUSCO, et aussi les problèmes des groupes armés par rapport à l'organisation de l'élection. Il peut attendre l'appui de la MONUSCO en termes de bon office, les facilitations et appui à l'institution d'État comme la CENI.
Les partis politiques attendent un appui et l'implication totale de la MONUSCO pour que les élections prochaines soient transparentes et crédibles. Mbazi Kasongo, coordonnateur provincial du parti politique Ensemble pour la République.
Nous voulons que la MONUSCO insère dans son mandat la sécurisation des élections et puis l'observation. Nous voulons que, comme c'est une organisation internationale de l'ONU, qu'elle s'implique vraiment dans l'organisation des élections, qu'il y ait en tout cas observation dans tous les niveaux, que les élections soient transparentes et acceptées par tout le monde.
Signalons que la MONUSCO Sud qui vous prévoit une autre rencontre cette fois-ci avec le PDDRCS. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, le Parlement de jeunes de Beni s'engage à lutter contre la désinformation à travers les médias sociaux. Engagement pris hier jeudi devant le chef de bureau de la MONUSCO Beni Boutembo Lubero lors d'un échange afin d'éviter la manipulation. Le président de cette structure citoyenne a affirmé que le chef de bureau leur a promis son soutien. Samuel Don Katembo le dit à André Kitenge.
Nous avons compris que la jeunesse de la ville de Beni, tout ce que la jeunesse fait, c'est parce qu'elle est manipulée. Mais pratiquement, ce que nous avons compris est que la jeunesse de la ville de Beni peut faire quelque chose. Tout ce qui se passe dans la communauté, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une mauvaise information, ce que nous avons appelé la désinformation. Si on peut comprendre que quelqu'un trouve un message sur WhatsApp, il ne sait même pas son origine, il ne s'aimait que pour partager. L'autre qui va recevoir partage, et tout ce qui circule, si on cherche l'origine de ce message-là, on va comprendre que c'est quelqu'un qui est mal intentionné qui a commencé à le partager. Pour lutter contre cette désinformation, mais aussi pour aider la jeune la vie de Beni à quitter ce volet-là, nous sommes en train de voir que faire pour former les gens dans la lutte contre la désinformation. Le chef de bureau nous a bien reçu, il a compris ce que nous avions dit et il nous a promis sa main pour que nous puissions essayer de former la jeunesse dans la lutte contre la désinformation.
Politique à présent. Ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale a autorisé hier jeudi sans débat la 34e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Après la présentation du projet de loi en la matière, les députés nationaux élus des deux provinces ont insisté sur la nécessité d'un débat sérieux. Notez qu'une motion de procédure du député national Prosper Bukassa a évité un débat sur la question. La motion a été soutenue par le président de la commission Défense et Sécurité. Les propos de Bertin Moumonzi ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
Nous sommes en guerre et ça nécessite une attitude responsable. Je ne comprends pas si c'est ici que nous devons étaler la gestion de prisonniers de guerre. Et je voudrais revenir sur la réunion que nous avions tenue hier avec le chef de l'État. Donc lorsqu'on parle d'une table ronde qui va se tenir avant la fin du mois de novembre, en fait, il faut préciser qu'elle a commencé hier, à partir de cette réunion pendant laquelle tous les collègues ont eu toutes les informations nécessaires. Nous avons un nouveau chef à la tête de l'armée, et rappelez-vous que cette décision répond à l'une des recommandations de l'Assemblée nationale. Et donc je pense que le collègue n'a pas tort lorsqu'il demande que nous puissions non seulement arrêter avec le débat, mais tant que les choses sont en train d'aller dans le sens de permettre à notre armée de monter en puissance.
Au Nord Kivu, la force syndicale nationale Fosinat s'insurge contre les arrestations arbitraires de 5 enseignants, dont le préfet de l'Institut de Goma et d'un enseignant de l'Institut de Niabiondo, territoire de Masisi. Le président provincial de ces syndicats affirme à Radio Okapi que ces enseignants ont été arrêtés par des personnes qui se faisaient passer pour agents de l'ANR. Innocent Mahala Chamavu est au micro de Denise Lukeso.
Il est inconcevable de voir que le chef d'établissement soit arrêté en cascade, sans respect des dignités, sans respect des grades, par des personnes inconnues. Tout le monde s'est fait passer pour un agent de l'ANR. Nous ne savons plus à qui faire confiance. À l'EPST, nous avons des services chargés de contentieux. Il serait mieux que lorsque vous voulez interpeller X ou Y, de s'adresser quand même à son autorité hiérarchique, mais pas aller ramasser les chefs d'établissement dans des écoles comme si vous ramassiez des cacahuètes. Et chose grave dans tout ça, il n'y a rien de légal. Tout ce que vous cherchez, ce n'est que l'argent. C'est 6-7 ans, dans le territoire de Masisi, il y a des arrestations arbitraires dans des écoles, par des inconnus, nous ne savons pas. Un agent de l'ANR, il n'a même pas de carte. Donc vous trouvez des gens qui viennent sans même mandat, sans même ordre de mission. C'est ainsi que nous demandons à l'ANR un peu de minimum du respect de l'administration. Pourquoi venir seulement récupérer les gens en créant des paniques?
Innocent Bahala Chamavu, président provincial du syndicat national des enseignants. Un des responsables de l'ANR qui a été contacté par Radio Okapi affirme que le cas du préfet de l'Instigo, c'est sur instruction de la direction que ce chef d'établissement a été interpellé et auditionné sans plus. Mais pour les cas des autres, il ne dit pas être au courant et promet de vérifier cela. Retournons ici à Kinshasa où les occupants des maisons construites sur le cimetière de Kinsuka dans la commune de Mongafula ont moins d'une semaine pour quitter définitivement ces sites. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui s'y est rendu hier jeudi après-midi, s'est déclaré choqué par l'ampleur de la profanation des tombes. Jean-Tindi Ngobilambaka a annoncé pour mercredi prochain la démolition de toutes ces constructions anarchiques après la délimitation du site par des experts. On l'écoute dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Masimango.
Ce cimetière est régulièrement fermé depuis 2015 par mon prédécesseur. On ne peut pas encore construire dans ce cimetière parce qu'il n'est pas encore désaffecté par l'autorité urbaine. Donc c'est un cimetière qui est tout simplement fermé au public. Il faudrait attendre minimum 50 ans que la dernière personne ait été enterrée pour désaffecter un cimetière. Tout celui qui a construit sur ces sites, ces gens ont pollué cet espace et profané les tombes. Le quinoa a atteint des niveaux exponentiels d'inconscience que je n'arrive même pas à comprendre. Nous sommes venus ici pour dire à toutes ces personnes que nous leur donnons une semaine, mercredi prochain, nous reviendrons ici avec des engins pour passer à la démolition de toutes ces maisons. La loi nous permet de démolir sur des sites non édificandis et surtout sur les cimetières. Cette démolition va se faire sans indemnité, comme le prévoit la loi.
Retournons au Sud Kivu où environ 300 femmes vulnérables bénéficient d'un projet sur leur autonomisation économique. Il s'agit des femmes victimes de violences sexuelles et déplacées dont le projet est financé par le gouvernement japonais. Ce projet lancé hier jeudi à Bukavu sera exécuté par la Fondation Panzi. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elmejua Kabedi.
C'est un nouveau projet pour la promotion des femmes vulnérables de la province du Sud Kivu. Il cible 300 femmes victimes de violences sexuelles, les déplacés et réfugiés ainsi que celles des communautés d'accueil. Soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI, pour un financement du gouvernement japonais d'environ 1 776 000 dollars.
Donc l'objectif du projet, c'est la stabilisation sociale qui est améliorée, de même qu'améliorer l'autonomisation économique des femmes vulnérables. Et le résultat attendu, c'est que les femmes vulnérables sont économiquement autonomisées avec des opportunités génératrice de revenus.
Une usine de production de bioéthanol pour désinfectants à base de la canne à sucre sera installée à la Fondation Panzi, qui en est le partenaire d'exécution.
Nous sommes très confiants que le projet va améliorer les conditions de vie de nos plusieurs familles à travers la femme. La femme est une actrice importante dans le travail de développement. C'est un projet innovant et qui aura beaucoup d'impact et qui apportera beaucoup de changements et des résultats positifs dans la vie de nos bénéficiaires.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu se félicite de ce énième projet qui vient juguler la vulnérabilité des femmes en province. Emmanuel Lamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Le 15 octobre, c'est demain la journée internationale de la femme rurale. L'événement rappelle la contribution de la femme rurale au développement économique et à la sécurité alimentaire. Seulement voilà, la femme rurale ne jouit pas totalement des produits de ses activités champêtres. Pour en parler, retrouvons en Mbujimayi Esther Ndalafina Kapinga.
Dans la localité de Bakwabowa, secteur de Sango, plusieurs femmes rurales exploitent actuellement la terre pour les activités champêtres. Agnès Ndaya affirme qu'elle quitte sa maison très tôt le matin pour se rendre au champ.
Le matin, en tant que femme rurale, je prends mon bassin et mon panier, je me rends au champ pour semer, après sarcler et préparer le terrain. Je commence à 6h et je termine à 17h.
Pour Thérèse Kayoua, la femme ne jouit pas de la sueur de son front. Elle vend le produit de son champ à moins cher et achète du savon et du sucre à très cher.
Elle travaille, elle gagne peu, mais le peu qu'elle gagne, elle ne se réjouit pas avec ça. Elle vend ses choses à moins cher pour venir payer à plus cher quand la peine vient.
Au-delà du fait d'être agricultrice, la femme rurale assume également la responsabilité du bien-être de sa famille, tel qu'explique ici Alphonsine.
Lorsqu'elle revient du champ, elle doit préparer si les habits des enfants de son époux sont sales. Elle est obligée de les nettoyer, même si elle a elle ne se repose pas, elle dort en rédal et se réveille à temps.
Face aux difficultés auxquelles la femme rurale est confrontée, Paul Moulumba souhaite que des programmes d'éducation soient organisés en sa faveur. Signalons que grâce à la femme rurale, certaines activités du secteur informel se portent bien dans la province du Kasaï oriental. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La ministre française des Affaires étrangères a appelé ce vendredi après-midi à l'élection rapide d'un successeur au président libanais Michel Aoun. Catherine Colonna a indiqué que le pays ne pouvait plus prendre le risque d'une vacance du pouvoir et que les dirigeants libanais doivent être à la hauteur de leurs responsabilités politiques et institutionnelles. Elle a dit aujourd'hui donc, lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Beyrouth, au terme d'une visite éclair au Liban. Au Royaume-Uni, la première ministre Liz Truss est sous pression, sommée même par les marchés et son propre camp politique de renoncer à certaines de ses mesures fiscales. À la fin du mois de septembre dernier, son ministre des Finances avait présenté un mini-budget rempli de baisses d'impôts non financées. Un projet qui a fait chuter la livre. Pour l'instant, pas de demi-tour, mais le chancelier Kwesi Kwarteng a annoncé sa démission pure et simple. Dans les jours qui viennent, il sera remplacé par Jeremy Hunt.
L'invité.
Notre invité, ce bienfait Baraka, ce membre de la société civile du groupement de Banande Kainama, parle de la situation sécuritaire et socio-économique de cette région de Beni et des efforts consentis par les FARDC pour restaurer la paix dans cette partie du Nord Kivu. Écoutez-le.
Monsieur Bienfait Baraka, bonjour.
Bonjour.
Comment se porte la situation en général dans votre région de Banande Kainama?
La situation en général dans le groupement Banande Kainama est chaotique. Au courant de la semaine ici, nous venons d'enregistrer des attaques de présumés ADF. La première, c'était la semaine passée, d'où un pharmacien a été sauvagement abattu par les inconnus. Et avant-hier, il y a eu encore une autre attaque dans la localité de Vido, à la limite avec le groupement Banande Kainama et la chefferie de Tchabi. Et là, nous avons enregistré 11 personnes sauvagement massacrées. Plus de 25 maisons rendues à centre et plus de 20 personnes portées disparues jusqu'à présent. Donc la situation est totalement chaotique et nous avons enregistré un déplacement de la population qui quittait dans la localité de Vido. La plupart s'est dirigée dans les chefs-lieux du groupement Banande Kainama, notamment à Muzuranduru et à Kitimba.
À présent, est-ce que les efforts sont en train d'être fournis par l'armée pour rétablir la paix dans cette région de Banande Kainama?
Les efforts sont là, mais ne sont pas palpables. Le fait qu'à Kainama, il y a la force conjointe, notamment FARDC-UPDF, mais nous proposerons qu'ils puissent multiplier les efforts pour voir comment bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Le fait que nos voisins qui sont à Tchabi, qui sont à Bouakadi, peuvent aussi vivre en paix, parce que parfois ils se ravitaillent à nourriture à Kainama. Mais cela ne nous rassure pas parce qu'ils sont loin de Vido. Mais nous pensons s'ils pourraient aller s'installer à Vido et aux environs, ça pourra nous rassurer la paix et la sécurité dans le groupement.
Monsieur Bienfait, parlons un peu des activités socio-économiques. Ça se passe comment? La population cultive son champ comme déjà dit ou pas?
Tout à fait, nous cultivons le champ et surtout le cacao, sauf que toutes nos activités étaient concentrées aux activités champêtres, mais ici, dernièrement, nous avons abandonné nos chats suite à l'insécurité grandissante dans la région. Mais après l'arrivée de deux forces, notamment FARDC et UPDF, il y a une accalmie qui commençait à s'observer. Alors après ces deux attaques, tout semble être rendu à zéro parce que nous ne fréquentons plus nos chats. Et nous demandons à ce que les forces puissent multiplier les efforts des patrouilles, surtout dans les grabens. Ça va nous permettre de regagner nos chats comme nous faisons les activités champêtres dans les groupements.
Et vous pensez par quel mécanisme cette fois-ci, cette région pouvait retrouver sa paix? Si on peut parler des mécanismes sur tous les plans qui sont sécuritaires ou bien des communications, sensibilisation de la population?
Surtout, Kainama est considéré comme un bastion des ADF. Si vous prenez par exemple la région de Tchabiboga, et souvent cette région était occupée par les inconnus communément appelés les Banyabusha, mais cette région n'est pas souvent sécurisée. Si on pourra multiplier des patrouilles dans cette région, ça va nous permettre de bien comprendre qui sont les ennemis et qui sont les massacreurs. Et au niveau des Graben, si le militaire, donc la force conjointe, pourront multiplier les efforts, de multiplier les patrouilles au niveau du Graben, notamment à Kwele, Mangusele, Vudaki, Kamuvuyo, donc cette ligne-là du Graben, ça va nous permettre de bien identifier, de bien sécuriser. Si on multiplie ces efforts, Kainama sera sécurisé parce que Kainama est considéré comme la porte d'entrée et de sortie de l'ennemi. Vous trouverez tout le territoire de Beni sera en paix. Toutes les chefferies qui se trouvent dans le territoire, même dans la chefferie voisine de Ituri, à Tchabi, Boga, seront aussi en paix. Et vous trouverez l'ennemi qui s'installait à Kainama est à mesure de circuler même sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu et même dans l'Ituri. Et vous trouverez une partie de l'Ituri intersécurisée, une partie du Nord Kivu est sécurisée parce que l'ennemi a bien calculé ses moyens pour bien former son bastion à Kainama et Kainama est considéré comme un bastion de l'ADF. Est considéré aussi comme la porte d'entrée dans les deux provinces, province du Nord Kivu et province de l'Ituri.
Monsieur Bienfait Baraka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Kapi, Bienfait Baraka, membre de la société civile du groupement de Banande Kainama au Nord Kivu. Il a été interviewé à Beni par Marc Marofimbo et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté la suite d'Okapi Soir avec vous, Friti.